Qu'est-ce que l'on peut connaître de plus grand que l'amour de Dieu? Rien, et on va encore ce soir méditer dessus avec un passage prophétique que je vous invite à ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. On va se faire un plaisir de lire tout le chapitre 53. Nous ne méditerons pas chaque verset d'Ésaïe, mais quelques pensées qui sont en évidence dans ce passage, que nos yeux puissent ce soir redécouvrir ce texte, reconsidérer la vision du prophète et le cadeau que Dieu nous a fait au travers de l'envoi de son fils. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est un passage, si je dis surnaturel, on va dire oui, bien sûr, mais intellectuellement surnaturel. Cet homme qui a écrit ces quelques versets, il les a écrits 700 ans avant la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 700 ans Nous, nous lisons ces passages-là et déjà nous identifions la personne, nous savons qu'effectivement Jésus a vécu toutes ces choses-là. Mais cet homme a prophétisé dans les détails un événement qui était improbable à l'époque, impensable, inimaginable. Et ce qui est encore de plus extraordinaire, c'est qu'il commence par une interrogation. Qui a cru à ce qui était annoncé? C'est que cet homme prophétise les souffrances d'un homme qui portera les péchés, mais il sait aussi que cet homme qui va souffrir, personne ne va réaliser ce qui se passe réellement. Et c'est là que je dis que c'est improbable, parce que, pardonnez-moi, quelque part dire qu'un prophète prophétise la venue d'un Messie, on pourrait se dire oui, c'est... ça peut rentrer dans une logique. Mais un prophète qui annonce que personne ne croira le Messie, ça c'est incohérent, c'est illogique. Un prophète, il annonce quelque chose pour que les gens croient. Mais lui, il annonce par avance que ce qui va être dit, ce qui va être fait, ce qui va s'accomplir, eh bien personne ne va y croire. C'est là que je dis que ce passage, il est surnaturel, surhumain. Il est improbable. Déjà, les détails sont d'une révélation pas croyable, mais ça va vraiment à l'encontre du bon sens que de prophétiser quelque chose en disant que les gens ne croiraient pas en ce qui vient justement prophétiser. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce qui est dommage, c'est que cette question-là, on peut encore se la poser aujourd'hui. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Beaucoup de gens lisent la Bible. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de gens disent oui, la Bible c'est bien, la Bible ceci, la Bible cela. Beaucoup de gens ont une affection pour les choses spirituelles et même pour les choses bibliques. Mais qui y croit réellement? Oh oui, c'est bien de pardonner, mais est-ce que tu pardonnes réellement? Ah oui, c'est bien de donner, mais est-ce que tu donnes réellement? Ah oui, c'est bien d'aimer, mais est-ce que tu donnes réellement? Ah oui, c'est bien de prier, mais est-ce que tu pries réellement? Oui, mais c'est bien de lire la Bible, de méditer, mais est-ce que tu le fais réellement? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est bien, oui, je crois, oui, j'adhère à ça. Mais est-ce que vous y croyez réellement? La question qui nous est posée là, ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle. Est-ce que tu crois que le Messie c'est Jésus? Oui, mais est-ce qu'il est véritablement le Seigneur de ta vie? Jacques a posé une petite question un peu pertinente comme ça. Enfin, une question, c'est pas une question, c'est une affirmation. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, ben c'est bien. Les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent. Certains disent, oh, il y a un Dieu. Mais en fait... ça n'a aucune influence sur leur vie. Ils croient, mais leur cœur n'y est pas. Ils croient, mais ça n'a aucune implication dans leur quotidien, dans leur piété personnelle, dans ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, qui n'est pas la peur de l'Éternel, mais qui est le désir de lui être agréable. Beaucoup de gens vont dans des églises. Mais que font-ils le reste du temps? Est-ce qu'ils cultivent l'amour de Dieu dans leur cœur? Est-ce qu'ils aspirent à un rapprochement avec Dieu? Beaucoup de gens disent prier, mais quelle relation ont-ils avec Dieu? Et qui a cru, qui croit encore aujourd'hui? C'est vrai que quand Jésus est venu, il y a 2000 ans sur terre, il est venu comme le prophète le décrit au verset 2. Il est venu comme une faible plante, un petit rien. Il est sorti là d'une terre desséchée. Il est venu dans une fragilité que l'on connaît, dans une étable, au milieu des animaux, dans un foyer très modeste. Joseph et Marie, on le comprend par rapport au sacrifice qu'ils ont fait, parce que le jour où ils ont fait le sacrifice, ils ont fait le sacrifice des pauvres. De ceux qui avaient le moins de moyens, le moins de capacité matérielle. Jésus est venu dans une bourgade, une banlieue, à la campagne. C'était un provincial, pour ne pas dire un campagnard. Une pauvre famille. Il est venu avec tellement de simplicité. Effectivement, il avait rien. Ni beauté, ni éclat particulier. Rien pour nous plaire, nous est-il dit. Rien pour taper le regard. On peut même pas dire que c'était un beau garçon, ou qu'il était quelqu'un de particulier, qu'il avait une sorte de sourire ravageur, qu'il avait un aura, qu'il avait du charisme. Rien du tout de tout ça. Rien. L'homme lambda, le basique, le banal, celui où vous le croisez dans la rue quand vous avez peut-être rencontré d'autres personnes, sans que cela vous ait marqué, vous ait interpellé. Si vous ne le connaissiez pas, vous ne l'aurez même pas remarqué. Dans une foule, il était là, oui. Il était tellement commun que les propres membres de sa famille n'ont pas reconnu en lui quelque chose de divin, de spectaculaire. Non, au contraire, on voit que ça a été compliqué pour lui. Philippiens chapitre 2, verset 6, nous dit que Jésus, qui était Dieu, qui avait une forme de Dieu, il s'est fait homme. Mieux que ça, il a revêtu une forme de serviteur, d'homme de plus ordinaire, de plus basique. Et pourtant, tellement ordinaire. Vous savez que nous sommes dans un monde qui n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans et même depuis que l'homme est sur cette terre. Mais le riche est de plus en plus riche, le pauvre est de plus en plus pauvre. On exploite la misère de la société. Et c'était pareil à l'époque. Jésus était tellement ordinaire que le texte nous dit même au verset 3 qu'il était méprisé et abandonné des hommes. C'est déjà une chose d'être, pardonnez-moi l'expression, d'être personne de particulier. Mais Jésus, en plus d'être un ordinaire, il a supporté le mépris. Il a supporté l'abandon. Il a été traité comme un moins que rien. C'est déjà quelque chose de n'être rien. Mais Jésus a supporté le fait d'être regardé comme un moins que rien. Et je crois qu'on a déjà au moins une fois dans sa vie supporté ce genre de regard, ce genre d'attitude, ce genre où on a la même impression que les gens peuvent même avoir du dégoût à notre égard, du mépris, qu'ils nous prennent de haut. Et il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de gestes, il y a tendance juste une attitude. Et là, on se sent même de trop. Et on se sent se vider de l'intérieur, perdre notre force, même alors que là, c'était peut-être une bonne journée qui commençait, et deux, trois remarques. Et là, on se sent... La haine commence à venir dans notre cœur, le dégoût même de nous-mêmes. Là où il y avait peut-être de l'espérance, de la joie, du plaisir. Voilà qu'on se sent comme petit, amoindri, desséché. Jésus n'a pas été seulement moins traité comme un moins que rien dans une ou deux situations, mais par toute la population. Il a été méprisé par les chefs, méprisé par les hommes politiques, méprisé par les religieux de l'époque, méprisé par les gens influents. Ces propres personnes-là l'ont stigmatisé, méprisé, abandonné par sa propre famille. Sa propre famille l'a renié, ses propres frères, sa propre mère. Croyez même qu'il était fou. Il a été trahi par son ami, vendu par juste pour quelques euros, par les siens. Il était abandonné et rogné par ses propres disciples. Lui qui les a choisis, lui qui les a donné un ministère extraordinaire, lui qui a donné des pouvoirs aux hommes, ses propres personnes. Non, on ne le connaît pas ce gars-là. Abandonné. Il a été insulté. Insulté par la foule qui l'a nourri. Insulté par la foule qui l'a aimé. Insulté par la foule pour qui il passait des nuits dans la prière. Il était insulté par ceux qui l'ont guéri. Insulté, méprisé, injurié. Par toutes ces personnes que Jésus a tant aimées, accompagnées, consolées, bénies. Traité comme un moins que rien. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Là, on s'approche de la croix. On rentre là dans ses souffrances physiques. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il nous est dit qu'en Ésaïe, chapitre 50, verset 6, il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Homme de douleur, habitué à la souffrance, dont on détourne le visage. Le dos de Jésus ne ressemblait plus à un dos. D'autres passages comparent le dos de Jésus comme un sol qui a été labouré. Parce que les foies de l'époque étaient munies d'os ou de matière de pierre ou de fer pour que chaque fois qu'il y a un coup de fouet, ces bouts durs puissent rentrer dans la chair et ressortir. Le dos de Jésus a été labouré. Le visage de Jésus ne s'est pas seulement pris quelques gifles, quelques soufflets. On tirait sur sa barbe. On tirait dessus. Il a pris des coups de poing, des crachats, des coups de bâton. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on a trouvé ça tellement plus drôle de lui mettre là, d'enfoncer sur sa tête une couronne pleine d'épines. Et là, je crois que l'on peut comprendre quand il est dit qu'on finissait par détourner le visage. Parce qu'il y a des situations qui sont tellement horribles que la première réaction humaine normale, c'est de détourner le regard. Nos propres enfants, nous les préservons de quelques images, on dit « regarde pas ça ». Il peut y avoir des hommes sadiques qui prennent plaisir à voir des hommes souffrir, des hommes défigurés par la souffrance, par le mal, par le sang, par les coups. Mais une simple réaction normale humaine, de pudeur et de respect, fait que quand on voyait Jésus dans ces moments-là, on détournait le regard. Tellement il supportait, il a porté la souffrance à son extrême. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Permettez-moi de vous dire que c'est plus que du dédain, c'est plus que du mépris, c'est plus que de la moquerie. On voit quand on lit les évangiles que c'est même de la provocation. C'est une chose d'être méprisé et ça fait mal. C'est une chose d'être traité comme un moins que rien. Mais c'en est une autre quand on nous provoque, quand on nous pousse à bout. Quand on nous pousse là à ce qu'on sorte de nos gonds, les sentiments qui sont au-dedans de nous soient poussés à leur extrême, au point où on a envie de se faire sortir tout ça, de réagir. Et c'est ainsi que ce qu'on a fait à la croix. Les soldats qui étaient là disaient « Ah, toi qui te dis le sauveur, allez, sauve-toi toi-même !» Alors que Jésus était là, avec des clous aux pieds, aux mains, avec cette couronne, avec ce bois qui devait gratter et faire encore plus de mal sur les blessures de son dos, avec ce soleil, ce sang qui coulait, cette transpiration, les crachats, les insultes, le bout de vinaigre que l'on met, et vous savez ce que c'est que quand on a un peu de vinaigre sur une plaie ouverte, il y a tout ça. Et là, vous êtes en train de souffrir. Et là, il y a un petit malin qui vient là. T'es le sauveur ? Eh ben, vas-y, sauve-toi toi-même. Sans compter ceux qui sont autour, là, et qui continuent de le railler, de se moquer de lui. Ah, le bien-aimé de Dieu, mais on va voir si Dieu réagit, hein ? Si vraiment Dieu l'aime, Dieu va l'aider. Mais Jésus est là. Pourquoi est-ce que je parle de provocation ? Parce qu'il nous est dit que Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Rien. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas retourné insulte pour insulte. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à demander aux gens « Calmez-vous, s'il vous plaît. Respectez ma souffrance. » Même pas ça. On verra même qu'il aurait eu la force de dire « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Mais le texte nous dit que dans cette oppression, car il a connu les angoisses, il a connu la misère, la pression. Il nous est dit qu'il n'a pas dit un mot. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas dit un mot? Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Était-il trop faible? Était-il un pauvre gars qui savait pas quoi dire? Est-ce qu'il était coincé? Peut-être qu'effectivement il n'y avait pas le choix. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Jésus n'était pas trop faible. Tout à l'heure, je nous mettais en situation. Comment vous réagissez? Lorsque vous supportez l'injustice? Comment vous réagissez quand quelqu'un vous insulte ou vous regarde avec un sale regard? Comment vous réagissez lorsque on vient vous provoquer? Qu'on est en train de toucher vos points faibles? On a tous des points un peu indélicats, hein? On a tous nos points où c'est sensible. De temps en temps, c'est au travail, de temps en temps, c'est à la maison, de temps en temps, c'est avec les copains, de temps en temps, ça peut être même à l'église. On a des points où, avec telle et telle personne, on sait que c'est délicat, on ne doit pas trop y toucher. Comment vous réagissez lorsqu'on vous nargue? Allez! Comment vous réagissez lorsque vous êtes dans la souffrance physique? Un mal de tête, déjà, ça nous perturbe. Essayez un seul instant d'imaginer ce que Jésus a pu vivre. Comment vous réagissez? Lorsque tout s'accumulait, il y a en plus les oppressions, l'angoisse, la détresse. Comment vous réagissez-vous? Avec un sourire, courtoisement? Il ne faut pas grand-chose dans ces moments-là pour qu'on explose. Dans ces moments-là, on a plutôt envie de hurler, n'est-ce pas? On a envie de crier! On a envie de balancer tout le monde! On a envie de régler les comptes à tout le monde! Et même si on sait que ça ne résoudra rien, ça nous dégage, ça nous défoule! Qu'est-ce qui est plus fort dans ces moments-là? D'être capable d'être maître de sa langue? Ou de laisser sortir toute cette injustice en nous? À vous de juger si Jésus était dans ce moment-là plus faible ou plus fort. Oh, il était coincé. Il pouvait rien faire, il était cloué. Mais les soldats, de toute manière, c'est normal qu'il fasse rien, il n'y avait plus qu'à encaisser. Ah, mais c'est bien mal connaître le Fils de Dieu. Dans une autre situation où il y avait une bagarre, un de ses disciples est venu à son secours. J'ai dit, si, stop. Tu sais, j'ai juste à demander à mon père, et mon père pourrait m'envoyer 60 000 anges. Juste pour une bagarre de rue, Jésus disait, ah, mon père, il peut m'envoyer 60 000 anges. À la croix, il n'avait qu'un seul mot à dire pour que le monde entier soit témoin de la puissance de Dieu. Il n'avait qu'un seul mot à dire. Et là, on peut imaginer tous les scénarios hollywoodiens où les clous auraient pu sortir comme ça, où il aurait pu être en lévitation, où son corps aurait pu être transformé, où il aurait pu juste balancer la main et tout le monde serait tombé à terre. Et là, on aurait pu imaginer le ciel qui s'ouvre, les éclairs tomber, exterminer tout ce qui se passait. Et lui, là, une grande voix du ciel qui dirait « C'est mon fils, vous aviez qu'à l'écouter, n'est-ce pas ?» Et ça, ce n'est qu'un pâle figure de ce qui aurait pu être fait indéfiniment plus. Jésus n'était pas coincé. Jésus, personne ne l'a obligé à rester à la croix. Qu'est-ce qui est plus facile? De sortir le revolver et de tirer? Ou de faire ce que Jésus a fait? Ne rien dire et supporter la souffrance sans un mot, sans agir. Mais alors pourquoi Jésus n'a rien fait? On a la réponse au verset 4 et verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous croyons qu'il était considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié par Dieu. Mais en fait, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne maintenant la paix. En fait, il était tombé sur lui, le châtiment est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et verset 8, il fut frappé pour les péchés de mon peuple. Si Jésus a gardé le silence, ce n'est pas parce qu'il manquait de répondants. Si Jésus est resté à la croix, ce n'est pas parce qu'il était contraint par quelques soldats avec des lances, ni même parce que les clous étaient bien fixés. Jésus est resté à la croix par amour.
Amen.
Il est resté à la croix parce qu'il devait porter mes péchés, vos Amen. Péchés. Il est resté à la croix, non pas pour sa propre vie, mais en considération de la vie de tous ceux qui sont dans la souffrance. Il est resté à la croix pour guérir ceux qui étaient malades. Il est resté à la croix parce qu'il voulait sauver ceux qui étaient considérés comme perdus par les hommes. Il est resté à la croix pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui sont et qui ont vécu comme lui la misère, la détresse, l'angoisse, le non-solution. Jésus est resté à la croix par simple amour, par grand amour. On a eu dans l'histoire des exemples d'hommes et de femmes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont pris la place de personnes qui devaient aller en camp de concentration. Et ces personnes se sont substituées parce qu'ils ont préféré partir à la place de leurs enfants, à la place de leurs petits-enfants, à la place de leurs parents. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes. Ils savaient très bien où ils allaient. Ils savaient très bien qu'ils iraient dans ces camps de travaux forcés. Ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Ils savaient très bien tout ce qu'ils allaient supporter. Ils savaient très bien qu'ils ne reverraient plus jamais la vie. Ils savaient très bien qu'ils allaient se séparer de tout ce qu'ils aimaient. Mais ils ont préféré que ce soit eux qui aillent plutôt que ceux qu'ils aimaient. Et c'est ainsi que des milliers d'hommes et de femmes sont partis dans ces camps, parce qu'ils l'ont voulu eux-mêmes, pour en protéger d'autres. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a accepté de rester à la croix, parce qu'il savait que si lui n'y allait pas, c'était à nous de devoir supporter les conséquences de nos péchés. Et le problème, c'est que nous sommes incapables de supporter les conséquences de nos péchés. La réalité est que nous sommes dans l'incapacité, dans l'impuissance de supporter les conséquences de nos péchés. Nous sommes complètement immatures et impuissants par rapport aux conséquences de nos péchés et tout simplement de nos péchés. Si l'on prend l'exemple du fumeur, il est capable et nous avons été capables de fumer et d'être fiers de fumer. Je fais ce que je veux, je suis libre, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Et là, on fume et on est fiers de nous-mêmes, on est des hommes. Moi, je sais ce que c'est que la vie, j'en profite. Mais quand le cancer arrive, qu'est-ce qu'il dit là? Rien. Quel mot tu vas dire? Quelle fierté, elle est où là? Elle est où ton arrogance? Elle est où ta grandeur? Tu ne peux rien faire. Tu es là avec ton cancer et tu es impuissant. Tu souffres, tu es misérable et tu es incapable d'assumer les conséquences de ton péché. Parce que c'est bien ton péché qui t'a amené à cette maladie. Mais tu es incapable d'assumer les conséquences. Tu es incapable de rectifier la chose. Tu es incapable de maîtriser la situation. Tu deviens même un boulet pour la sécurité sociale. Un boulet pour les membres de ta famille. Alors que avant, oh, comme tu étais fier avec ta cigarette, comme tu étais là, plein d'assurance, oh, moi je suis quelqu'un de brave, moi, vous voyez ce que je fais. Lorsqu'il y a les conséquences du péché, tu n'es plus rien. Tu es même redevable de la société qui te soutient, de la cistanade, du système qui fait qu'on va essayer de te sauver, de te rattraper le corps. Mais toi, tu deviens là, impuissant face à ta misère. Et même si tu étais le plus riche du monde, tu pourrais même pas acheter ta guérison. Tu pourrais même pas acheter une demi-guérison. Et même si tu avais les meilleurs des avocats, les spécialistes des spécialistes, les plus grands des avocats, mais comment tu vas rattraper tout le mal que tu as fait? Comment tu vas rattraper toutes les cigarettes que tu as consommées? Comment tu vas rattraper toutes les mauvaises choses et tous les gens que tu as pollués avec ta fumée d'hier? Comment tu vas rattraper ça? C'est impossible! La réalité, c'est que nous sommes impuissants, incapables de gérer, de maîtriser, d'assumer les conséquences de nos péchés. La cigarette n'était qu'un exemple, mais nous pouvons exactement nous dire la même chose sur toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Combien de cœurs nous avons brisés? Et combien même est-ce que nous aurions conscience aujourd'hui d'une mauvaise parole? Comment tu vas rattraper les effets de cette mauvaise parole dans le cœur? C'est faux. Tu vas rien faire. Même si tu vas te rattraper et que tu veux dire pardon, la cicatrice, elle est faite. La blessure, elle est faite. Comment tu vas faire pour rattraper tous tes mauvais choix du passé? C'est faux. Tu as fait un choix, ce choix t'a amené sur des chemins. Et tu peux faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Le chemin, il est pris, le train, il est embarqué. La voiture, elle est partie. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est faux. On n'est pas capable d'assumer les conséquences. Comment tu vas faire? Et comment faire pour assumer les conséquences d'un viol, les conséquences d'un meurtre, les conséquences des paroles humiliantes sur les enfants qui grandissent avec ces paroles, cette pression, et tu dois faire comme si, tu dois faire comme ça, et t'es pas comme si, et t'es pas comme ça. C'est pas quand il aura 40 ans et que vous lui direz pardon, l'enfant, j'étais trop dur avec toi, que vous allez rattraper. C'est foutu. Les conséquences de votre péché, il sera là, il sera marqué, il aura forgé, détruit. Nous sommes incapables de réparer le mal commis, qu'il soit volontaire ou même involontaire. La réalité, c'est que nous sommes incapables d'assumer les conséquences du péché. Et pourtant, il faut bien que la justice se fasse. Nous avons tous subi une injustice, n'est-ce pas? Qui a déjà subi une injustice ici? Ok, donc on est quatre à se comprendre. Les autres, essayez de faire un effort de réflexion. Quand on subit l'injustice, qu'est-ce qu'on réclame après?
Justice.
Justice. Tous. Personne ne nous l'a dit. Personne ne nous a fait un discours. Et pourtant, nous sommes remplis d'un désir de justice. Quelle que soit l'éducation, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre situation de richesse ou de pauvreté, il y a une réalité, c'est que Dieu a mis au fond de notre cœur le désir de justice. Et quand nous disons aux autres, c'est injuste, faut que justice se fasse, alors on loue les chrétiens, oh, bah, c'est bon, hein, Dieu fera justice, alléluia. Mais la réalité, c'est que celui qui nous a commis injustice, c'est mon prochain, c'est le prochain du prochain, c'est le prochain du prochain, et la boucle se revient vers vous. Donc quand nous réclamons et quand nous savons qu'il y a un besoin de justice et que nous pointons du doigt le voisin, on a forcément un voisin qui pointe le doigt également sur nous. Parce que nous aussi, nous avons commis injustice. Nous aussi, nous avons péché. Et si nous voulons réclamer justice pour les autres, alors il faut accepter que nous aussi, un jour, nous devions rendre compte et que cette justice s'adresse également à nous. Ah oui, vous les tuez. Ah oui, ça c'est normal. Mais la justice de Dieu est bien plus excellente que la nôtre. Parce que Jésus le dit très clairement. Oui, il jugera le voleur. Mais il jugera également le menteur. Il jugera l'adultère. Il jugera celui qui insulte. Il jugera celui qui méprise le pauvre. Et il jugera celui qui souille son corps et qui le détruit, etc., etc., etc. Mais rien que sur cette petite liste, je pense qu'on a pu se reconnaître, non? Devant Dieu, nous sommes tous des coupables. Devant Dieu, nous sommes tous des hommes et des femmes qui avons péché et dont on est incapable à la fois de gérer les conséquences du péché, mais que nous ne sommes pas non plus de nous faire nous-mêmes propre justice. Quel prix vous allez payer pour un péché? Dites-moi. Il n'y a pas de prix. Et on revient à notre texte qui exactement à ce moment-là nous dit au verset 8 « Et parmi ceux de sa génération, qui a cru que Jésus avait été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?» Qui a cru? Qui de sa génération, en voyant Jésus sur la croix, a réalisé qu'en fait, ce n'était pas pour ses péchés qu'il mourait, mais que c'était nous, à notre place, qu'il supportait les conséquences de nos péchés? Qui a cru? Qui a cru il y a 2000 ans? Mais la question n'est plus il y a 2000 ans. Qui va croire ce soir? Qui va réaliser ce soir que Jésus est véritablement celui qui a pris notre place? Qui va croire? Qui va réaliser? Qui va accepter de reconnaître qu'il est pécheur? Qu'il mérite la condamnation? Qu'il mérite le jugement de Dieu? Et que ce serait tout à fait normal, légitime de subir le jugement de Dieu qui n'a pas deux destinées mais qui n'en a qu'une, l'enfer, au prix de la somme de péchés que nous avons commis. Qui va croire ce soir que Jésus n'est pas mort pour lui, pour lui-même, mais qu'il est mort pour vous, pour toi, pour celui qui confessera ses péchés? Certains se diraient, mais moi j'ai trop fait. C'est pas possible que Dieu me pardonne. J'ai trop fait et je recommence et je m'en sors pas. Et il y a quelque chose en moi qui fait que je suis toujours là, embourbé dans mon péché, dans ma misère, dans mes propos, dans mes mauvais sentiments, dans ma haine, dans mon égoïsme. C'est pas possible. Qui a cru? La question de ce soir, du verset 1er, du verset 8 jusqu'à la fin, qui a cru? Il n'est question pour vous maintenant, ce soir, non pas de vous fixer l'intérêt sur vous-même, non pas de mesurer ce que vous avez fait ou pas fait, non pas d'estimer quelque chose de votre péché, mais est-ce que tu veux croire ce soir que celui qui a été défiguré, celui qui a été fouetté, celui qui a été oppressé, celui qui a été là et poussé jusqu'à la mort, l'a été pour tous tes péchés, tous, sans estimation, sans quantité, sans qualité. Il a tout pris à la croix. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes libérés. C'est par la foi seule que l'on peut avancer. Si c'est simple, c'est justement pour que personne ne soit exclu de cette bénédiction. C'est justement pour que personne ne puisse se dire « Moi, je ne peux pas y arriver !» Si tu es capable de comprendre le message de ce soir, et si tu es capable de réaliser que Jésus est mort il y a 2000 ans, comme un chien méprisé des hommes, torturé, et que tu acceptes un seul instant de comprendre et d'accepter que c'est à ta place qu'il est mort, alors tu es dans la capacité, tu peux croire. C'est trop simple? C'est pas si simple que ça. Parce que la démarche n'est pas seulement d'un point de vue intellectuel. Ce que Dieu attend, c'est que nous croyons sincèrement, c'est que nous croyons en vérité, c'est que nous soyons capables de faire le vrai bilan de ma vie. Beaucoup de gens, tout le monde est capable de dire « Oui, c'est vrai, je suis pas forcément un bon gars ». D'ailleurs, les gens disent « Je suis pas un saint », n'est-ce pas? C'est facile de dire, de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est... Là, il ne faut pas réfléchir très longtemps pour arriver à ce constat-là. Mais la Bible ne nous parle pas seulement de dire « Je suis pas parfait ». La Bible nous appelle à la repentance. C'est-à-dire une prise de conscience que l'on n'est pas seulement des parfaits, mais qu'on est vraiment des pourris. Qu'il y a au-dedans de nous ce péché qui influence tout. Nos paroles, nos gestes, nos regards, nos attitudes, qui fait que ce qui est au-dedans de nous, c'est comme une pollution qui salit ce qu'on aime, qui brise la vie de ceux qui nous entourent, qui noircissons ce que Dieu a créé avec autant de beauté. Mais il faut qu'il y ait un moment, une prise de conscience intérieure, profonde. Si Jésus a été défiguré, si le dos de Jésus a été labouré, si cette couronne a été enfoncée, si on est capable de réaliser l'atrocité de la violence, le côté mais brutal de ces joues, de cette barbe qui a été tirée, des coups poings, c'est que nous devons réaliser que notre péché est encore pire que tout ça. Il est pire que tout ça. Chaque instant où nous nous donnons bonne conscience, c'est comme si nous acceptions ces coups sur un homme injuste. Nous devrions être conscients que le péché n'est pas juste une question de qualité, plus de moins, mais que c'est une vraie pourriture. Si vous êtes capable de faire cette démarche sincère, vraie, alors vous êtes prêt à recevoir le pardon de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous soyons des gens extraordinaires. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions croire à ce qui nous a été annoncé. Croire que Jésus est mort pour nous. Croire que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et l'histoire ne s'arrête pas là, et ce sera le dernier point. Il nous est dit au verset 10 qu'après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré sa vie en sacrifice et mis au tombeau, la Bible nous dit que Christ est ressuscité. Et Christ est ressuscité et Christ a eu des enfants. C'est le sens de postérité, n'est-ce pas? Jésus a eu des enfants, vous savez? Bien sûr, ce ne sont pas des enfants de chair. Mais il ne dit que quiconque a reçu la parole dans son cœur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus a des enfants. Et seulement par la foi, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce qui caractérise un enfant de quelqu'un, c'est qu'il porte les gènes de ses parents. Je ne connais pas le visage de vos parents, de vos deux parents, mais c'est quand même assez fréquent que quand on voit un enfant, il ait des traits de ressemblance avec le nez, les yeux, la taille. Il y a les traits physiques de ressemblance, il y a les gènes qui font que physiquement, « Oh, toi, on connaît ton père, on connaît ta mère !» Mais de temps en temps, ce sont les traits de caractère qui font que... Ah bah toi, t'es bien comme ton père. Et on a tout dit. Ah bah toi, t'es bien comme ta mère, tiens. Parce qu'on reconnaît dans l'attitude de la personne, de l'enfant, les gènes, le caractère du père ou de la mère. Et c'est en ce sens que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. C'est que Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Il veut retirer cette pourriture qu'il y a au-dedans de nous, mais pas pour laisser un vide. Il veut nous mettre son gène spirituel. Il veut que nous soyons également et effectivement enfants de Dieu. Non pas parce que nous aurions nous dit « Je suis enfant de Dieu », mais parce que nous allons avoir le caractère de Dieu en nous. Et c'est la promesse de Dieu. J'inscrirai, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair et je mettrai ma loi dans votre cœur. Jésus a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur nous a fait la promesse que le fruit de l'Esprit en nous serait l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Mais ça, c'est le caractère divin. Et c'est ça qui fait que l'on est vraiment un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de lire la Bible. Ce n'est pas le fait de prier. Ce qui fait qu'on est enfant de Dieu, c'est quand il y a le gène spirituel de Dieu en nous. Qui fait que quand les gens nous côtoient, ils disent « Toi, tu es bien le fils de ton Père. » Amen. Céleste. Tu as bien le caractère de ton Père céleste. Tu as bien la ressemblance de réaction de celui qui t'a fait naître de nouveau. Qui va croire ce soir? Qui va croire à ce qui a été annoncé ce soir? Qui va avoir le courage d'ouvrir son cœur? Qui va avoir le courage de reconnaître les conséquences de ses péchés? Qui va avoir l'audace de reconnaître son impuissance par rapport à ses mauvais choix, ses mauvaises réactions, ses mauvaises attitudes? Qui va accepter de croire qu'il peut commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ? Qui va accepter de croire que ce soir encore, par la bonté de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, Jésus peut retirer le péché de son âme, faire de cette personne une nouvelle personne et recevoir le caractère de Jésus. C'est ce gène de Dieu, le fruit de l'Esprit, le caractère doux et paisible qui caractérise le ciel. Je vous invite à vous recueillir.